Radio Kapi.
Oh, Kapi.
D'abord les titres de ce journal. Des violents affrontements ont opposé hier samedi les rebelles du M23 aux groupes locaux Wazalendo dans les massifs au nord Kivu. La société civile locale déplore la violation du cessez-le-feu par les rebelles qui devaient prendre place après la trêve humanitaire. Une année après la catastrophe des Kalehe dans le sud Kivu, les sinistrés vivent toujours dans des conditions précaires. En tout cas, l'incertitude les ronge surtout à l'approche de la saison des pluies et de la rentrée scolaire. L'invité de ce journal est le chef de division communication au programme national de lutte contre les paludismes. Professeur Michel Itabou Issa revient sur les renforcements des capacités en faveur des équipes cadres provinciales du Maniema en prélude de la campagne de distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. Bonjour à tous. Au nord Kivu, des combats ont fait rage hier samedi sur l'axe Kironko près de la localité de Bougouri en territoire des Masisi. Ils opposaient les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise aux groupes locaux d'autodéfense, les Wazalendo. À la mi-journée, la situation était confuse autour de la localité de Mouheto, environ 16 km des Masisi centre, où les tirs croisés à l'arme lourde ont plongé la population dans le désarroi. Chris Moukand revient sur la situation qui a prévalu hier.
Difficile pour l'instant de dire avec précision lequel des camps sur le champ de bataille a le contrôle de la localité de Mouheto. S'il y en a qui confirment déjà la chute de cette contrée, d'autres sources en revanche soutiennent que les combats débutaient vers 4h ce samedi, se poursuivraient et auraient redoublé d'intensité. Les rebelles du M23, les premiers à avoir lancé l'offensive, auraient en même temps ouvert plusieurs autres fronts. Ainsi, outre Mouheto, il y aurait des combats dans un rayon comprenant les localités de Kisuma, Nyange, Kaniro, Lukopu, également du côté Katale. À Kisuma, les Wazalendo ont dû contraindre l'envahisseur à battre en retraite, apprenons-nous des sources dans la région. Depuis le début de la semaine qui s'achève, des combats sporadiques ont été rapportés à maintes reprises dans les localités du territoire de Masisi, obligeant le reste des populations civiles à se déplacer sans cesse. Les organisations de la société civile déplorent ce manque de respect à la période de cessez-le-feu qui devrait en principe prendre place après la trêve humanitaire. Chris Moukand, Radio Kapi, Goma.
Entre-temps, l'administrateur du territoire de Lubero, le colonel Alain Kiwewa, accuse les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise des violations du cessez-le-feu. Il affirme que ces rebelles ont à plusieurs reprises attaqué cette semaine les positions des combattants Wazalendo vers Katoa à la sortie est de la commune rurale de Kirumba. Le colonel Alain Kiwewa assure tout de même que l'armée contrôle la situation. L'administrateur du territoire de Lubero, le colonel Alain Kiwewa, est joint au téléphone par André Kitenge.
Ces derniers temps, si vous remarquez très bien, c'est l'armée rwandaise et ses supplétifs, les M23, qui sont en train de violer les cessez-le-feu. Vous l'avez suivi dans les Masisi, ils ont fait la même chose. Et ici aussi, au niveau du territoire de Lubero, ils ont fait la même chose. Ils sont allés attaquer les positions de Wazalendo qui était à Katoa. Et puis, ils ont prolongé jusqu'à Kikuvo. Et vous voyez que ça, ce sont des signes qui démontrent très bien qu'ils sont en train de violer les cessez-le-feu. Par contre, nos forces de défense gardent encore leur position initiale, donc leur position habituelle, ils sont encore là. Et à la population, je les réconforte qu'ils aient confiance aux autorités, que ce soit les autorités au niveau du territoire, que ce soit les autorités au niveau de la province, au niveau national. Donc, ils doivent toujours avoir confiance de toutes les autorités politico-administratives. Et en plus de cela, je leur demande également d'avoir confiance à nos forces armées de la République démocratique du Congo et nos alliés.
Et puis cette réaction, l'évolution actuelle des pourparlers de Luanda n'inspire plus confiance et inquiète l'opposition politique en RDC. C'est ce qui ressort de la déclaration politique vendredi dernier à Kinshasa de Prince Epengé, cadre de la coalition Lamuka. Selon lui, ces pourparlers sont menés sous un fond d'hypocrisie pendant que les ennemis de la République continuent à conquérir des territoires, à occasionner des déplacements internes et des morts de trop. Pour Prince Epengé, la RDC doit carrément et simplement sortir du processus de Luanda. Il est joint au téléphone par Askenzik Biatayoro.
La coalition Lamuka ne croit plus au pourparlers
ces fonds d'hypocrisie qui sont menés à Luanda. Nous exigeons que M. Félix Tshisekedi retire notre pays de ces pourparlers hypocrites. Continuez naïvement à croire ou à considérer que Paul Kagame est un facteur de paix et de stabilité en faveur du Congo est une faute grave. L'Angola le sait. Notre pays en a conscience. Que la raison pour laquelle Paul Kagame a envoyé ses militaires au Congo, ce n'est pas le FDLR. C'est une conquête territoriale. Jamais nous ferons des concessions territoriales à Kagame. La solution pour mettre fin à cette guerre, pour préserver l'intégrité de notre territoire, viendra de Kinshasa désormais et elle passera par la recherche rapide de la cohésion et de l'unité.
Direction la province du Congo central où des cas d'insécurité sont signalés dans plusieurs entités de la province. Dans la ville de Boma, dans la nuit de vendredi à samedi, 3 avenues ont été visitées par des bandits armés. Une situation similaire a été signalée dans la cité de Lukala, en territoire de Mbanzangungu, où les coupeurs de route ont opéré cette nuit. Face à cette recrudescence de l'insécurité, le président du cadre des concertations de la société civile du Congo central, Jules Benga, appelle les services de sécurité à multiplier les efforts et des stratégies pour éradiquer les phénomènes coupeurs de route et les koulounas. Les points avec Nana Plurich Mambou.
À la cité de Lukala en territoire de Mbanzangungu, aux environs des 10 heures du matin, une attaque des coupeurs de route sur la nationale numéro 1 a été signalée à 2 km du péage de Lukala en allant vers Kinshasa. Des passagers étaient obligés d'attendre au péage jusqu'au petit matin pour continuer le chemin. La police qui est intervenue a retrouvé un camion poids lourd et une voiture avec des impacts de balles sur les pneus. La nuit de vendredi au samedi vers 3 heures dans la ville de Boma, les avenues Kimboa, Mateba et Kinga ont été visités par des bandits lourdement armés. Cependant, la population mobilisée a fait usage des sifflets et a fait fuir les assaillants. Cependant, selon la société civile, deux jeunes du quartier qui étaient sortis pour secourir une maison sous menace des voleurs sont blessés par balles. Dans la nuit de jeudi à vendredi au kilomètre 5 dans les territoires de Songololo, des voleurs armés ont opéré dans trois résidences, un centre de santé et une boulangerie. Plusieurs biens de valeur ont été emportés. Et vendredi, une manifestation des jeunes de Songololo pour dénoncer cette recrudescence des cas de criminalité s'est soldée par mort d'homme. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Au sud Kivu, une année après la catastrophe de Bushushu et Nyamukubi dans les territoires des Kalehe, les sinistrés vivent dans l'incertitude du lendemain, surtout à l'approche de la saison des pluies et de la rentrée scolaire. Plusieurs orphelins de la catastrophe manquent de tout pour préparer la rentrée scolaire et les taux de mortalité est très élevé dans les sites transitoires des Loako. Les condensés de la situation actuelle de ces sinistrés dans ces éléments groupés par Jean Kassami.
Sur le plan sanitaire, 12 déplacés sont décédés à Loako à cause de la distance entre ces sites et les structures de santé, renseigne le rapport du comité de gestion des sites des sinistrés de Kalehe. Les occupants des sites Katashola, Changuhe et Kasirusiru redoutent l'avènement de la saison pluvieuse. Les besoins des sinistrés sont multiples. En eau, en abri et en latrine pour ne citer que cela. Les commissions mises en place pendant la période chaude de la catastrophe ne sont plus actives, constate l'abbé Meshak Nakuhire, curé de la paroisse de Kalehe.
C'est vrai, les commissions qu'on avait instituées tout au début de la catastrophe, ces commissions existent encore, mais je dirais qu'on ne se rencontre plus parce que les commissions étaient chargées d'orienter les ONG qui venaient en afflux. Il y en a qui s'occupaient presque de la même chose, quoi. Alors la commission avait comme charge d'orienter les ONG pour pouvoir arriver à satisfaire les besoins au maximum.
3231 ménages sont hébergés dans 5 sites, plus 573 autres ménages déplacés de guerre venus de l'axe Minova-Lumbishi, Bukavu. Jean Kassami, Radio Okapi.
Rendons-nous en Ituri où il y a eu 6 morts par noyade, des milliers de maisons inondées, des pirogues et boutiques endommagées. C'est le bilan des inondations causées par la montée des eaux du lac Albert dans les villages lacustres d'Ouri 2, Ubongwa et Adou, mercredi et jeudi dernier dans les territoires des Mahagi. Ces chiffres sont publiés ce samedi par le service provincial de la protection civile dans son bulletin d'information. L'administrateur du territoire des Mahagi appelle la population à ne plus construire des maisons dans les espaces à risque. Martial Kizabiamungu.
Les 6 personnes mortes sont originaires des villages d'Ouridé, Ubongwa et Adou. Toutes ces entités lacustres situées dans la chefferie des Wagongo sont envahies par les eaux du lac Albert à la suite des vents violents qui soufflent ces derniers jours dans cette partie de l'Ituri. Selon les services provinciaux de la protection civile qui revient de la zone, 15 rescapés et blessés sont internés au centre de santé d'Agoudi ou Soké pour des soins appropriés. Plus de 3000 maisons sont inondées et détruites, dont au moins 1500 dans les villages de Bongwa. Cette catastrophe naturelle a causé le déplacement de plus de 1000 personnes qui passent la nuit à la Belle Étoile ou dans des hangars du petit marché de Bongwa. La protection civile parle de 87 barques saccagées et boutiques, kiosques, y compris les marchandises détruites par les eaux du lac. L'administrateur militaire de Mahagi promet de faire un plaidoyer auprès des humanitaires pour une intervention rapide et urgente en faveur des sinistrés. Bounia Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Autre nouvelle, à la suite des informations préoccupantes sur une probable présence des substances impropres contenues dans la farine de maïs en direction de la RDC via Kasumbalesa, le ministre du Commerce extérieur a organisé une réunion ce samedi avec son homologue de la Zambie. Celui-ci affirme avoir reçu les mêmes informations. Cette information est contenue dans un message publié ce samedi sur les comptes X de Julien Paluku Kahongia. Aussitôt, dit-il, il a instruit le secrétaire général au commerce extérieur en sa qualité de président de la commission santé et phytosanitaire de convoquer toute affaire cessante ses membres et faire rapport. En attendant, écrit-il, l'œil de l'Office congolais de contrôle est à la trousse de la moindre cargaison. Les réformes initiées par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, pour remettre de l'ordre dans l'administration publique ont été faites en concertation avec l'intersyndicale nationale de l'administration publique. C'est le démenti qu'a bien voulu apporter Fidel Kiangi, président de l'INAP, contre les affirmations de Guy Koukou, président de la Confédération démocratique du travail CDT, lors de son intervention dans l'émission Dialogue entre Congolais jeudi dernier. Selon Guy Koukou, les réformes de Jean-Pierre Liaou ont été faite dans la précipitation sans aucune concertation. Ce qui est faux, rétorque Fidel Kiangi, joint au téléphone par Askenzik Biatayoro.
Quand ce travail-là a été publié, nous, INAP, intersyndicale nationale, nous avons dit au gouvernement non, ce que vous avez fait, ce n'est pas comme ça que ça devrait être fait. Il devrait y avoir d'abord une concertation. Et le conseil des ministres a demandé au vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, de retourner vers les syndicats pour que nous puissions nous concerter. Et c'est ce qui a été fait. Nous nous sommes concertés avec le gouvernement sur tous les textes que le gouvernement a pris, les différents décrets. Et aujourd'hui, nous avons trouvé des compromis. Le décret a été revu, le travail a été fait ensemble et nous avons dit, obtenu d'ailleurs, ce que Guy Koukou n'a pas encore obtenu pour les autres travailleurs. Nous avons obtenu la réduction des temps de travail de 45 heures à 40 heures. Et le mieux serait pour Guy Koukou, au lieu de parler pour parler de tous ces Congolais qui souffrent, ceux qui travaillent chez les Chinois, chez les Libanais, chez les Ndingari, qu'ils obtiennent d'abord leur amélioration des conditions de travail.
Dans la province de la Tchopo, ouverture hier samedi de la 14e édition du festival culturel Ngoma à Kisangani. Environ 10 troupes théâtrales sont attendues à cette fête culturelle prévue du 24 au 30 août courant. Elle est organisée par les groupes TASEM. Objectif déclaré, donner de la visibilité aux artistes et à leurs œuvres. Un reportage de Jacques Moukonkole.
Hormis les délégations de Kinshasa et une partie des Goma et des Bujumbura attendues ce week-end, les autres en provenance de Bunia et Isiro se trouvent déjà sur place à Kisangani. Au-delà des motivations purement culturelles, le groupe TAXEM aimerait aussi donner du sourire notamment à la population boyomaise qui a tant souffert des affres de la guerre, comme l'explique Olivier Wamaloba, président du comité d'organisation de ce festival.
Nous leur donnons de l'espoir à travers les arts et nous essayons avec les des artistes, de donner le sourire à notre grand public de Kisangani et pourquoi pas de toute la République démocratique du Congo. Donner de la visibilité aux artistes et à leurs œuvres, organiser des échanges entre artistes dans le cadre des renforcements de capacités artistiques.
Le coup d'envoi sera donné avec la troupe des Goma qui va jouer la pièce « Si Jésus n'était pas Dieu » de Magloire Bolunda du groupe Taksem de Kisangani. Signalons que d'ici à la fin de ce festival, le 30 août prochain, chaque jour connaîtra 2 à 3 productions théâtrales à partir de 18h, heure de l'Est. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Burkina Faso, la commune de Barsalogo, située dans la région du centre-nord à 45 km au nord de la ville de Kaya, a été la cible d'une attaque par des groupes armés terroristes ce samedi 24 août, alors que les populations aidaient les forces de défense et sécurité à creuser des tranchées pour protéger les postes de sécurité. Des hommes armés ont ouvert le feu sur eux, tuant 100 de personnes. Parmi les victimes, on retrouve des civils, des soldats et des volontaires pour la défense de la patrie. Plusieurs militaires sont également portés disparus. Les bilans humains est très lourd. Entre 100 et 200 personnes ont été tuées au cours de cette attaque, selon plusieurs sources sécuritaires.
L'invité.
Professeur Michel Itabou Issa est l'invité de la rédaction. Il est chef de division communication au Programme national de lutte contre les paludismes. Il nous parle de ses assises, des renforcements de capacités organisées au Maniema en faveur des équipes cadres provinciales en prélude de la campagne de distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action, campagne qui interviendra au courant du 4e trimestre de cette année. Professeur Michel Itabou Issa s'entretient avec Florence Kizalunga.
Monsieur Michel Itabou Issa, bonjour.
Bonjour, Madame Florence Kizalunga.
Pourquoi vous avez jugé bon aujourd'hui de renforcer les capacités de membres de l'équipe cadre provinciale de la province du Maniema?
Merci beaucoup pour la question, Madame, et merci pour la radio Okapi pour nous approcher par rapport à cette grande activité dans le Maniema. Il s'agit bel et bien d'une activité en prélude de la campagne de distribution de la moustiquaire imprégnée d'insecticides dans toute la province du Maniema. Afin de mener au bon port cette activité, il s'y est de renforcer d'abord la capacité des acteurs qui seront convoqués, sollicités, parce qu'il reviendra à ces derniers de renforcer à leur tour la capacité des médecins chefs de zone, des infirmiers titulaires et même d'autres acteurs, notamment les mobilisateurs et les relais communautaires. Pourquoi ce renforcement des capacités? C'est parce que la campagne de distribution de la moustiquaire imprégnée d'insecticides à longue durée d'action s'inscrit dans un schéma processuel qui part d'abord de la formation, de l'élaboration des micro-plans parce que ce sont ces derniers qui donnent une idée précise par rapport à la population globale dénombrée et au nombre de la moustiquaire qui sera distribuée. Parce qu'il est entendu qu'au moins, après la distribution de la moustiquaire imprégnée d'insecticides, 2 personnes passent la nuit sous une moustiquaire.
Dans les cas d'espèces à la province du Maniema, combien sont entendus pour recevoir ces moustiquaires?
Le Maniema aujourd'hui compte plus de 3 millions d'habitants, 3 millions d'âmes. Mais c'est à l'issue de l'élaboration des micro-plans que nous aurons une idée précise. Parce qu'au moment où nous parlons ici, il y a peut-être des cas de naissance et de décès, mais au moins à l'issue de l'élaboration des micro-plans, nous aurons une idée précise sur les données populationnelles desquelles ressortiront les nombres exacts des moustiquaires qui doivent être distribués dans les Maniema.
Est-ce que vous avez pris des mesures par rapport à la distribution, étant donné que la fois passée, quand on a distribué les moustiquaires, il y a eu des familles qui ont eu beaucoup plus de moustiquaires et d'autres familles qui n'ont pas eu même une seule moustiquaire.
Merci beaucoup pour la question et c'est vraiment une question pertinente. Vous savez, Madame Kizal, à l'issue de chaque campagne, nous évaluons et nous tirons des leçons. La spécificité de cette campagne, c'est qu'elle sera menée à l'aide de l'outil informatique, notamment les téléphones. Téléphone et l'approche ABC, l'approche basse. basé sur les résultats. L'utilisation du téléphone va faire que quand les binômes qui va procéder à la distribution dans les avenues, dans les villages, va se trouver en face d'un chef de ménage, une fois qu'on a saisi les données, données à partir desquelles on sait au moins combien de moustiquaires seront remises gratuitement à ces ménages-là, ces données sont directement envoyées au serveur central. Et l'autre spécificité, c'est que chaque moustiquaire, cette fois-ci, est codé. De sorte qu'il suffit de perdre une moustiquaire donnée, on sait que la moustiquaire était perdue à partir de telle cité ou de tel village. C'est ce qui va nous permettre à l'issue de cette campagne de nous rassurer.
Vos propositions ont toujours été bonnes, mais comme vous parlez là des téléphones, est-ce que vos agents vont descendre dans les coins de la province pour faire le même exercice ou bien ils vont se limiter entre membres de famille et c'est ce qui a vraiment des conséquences, il y a ceux qui reçoivent et ceux qui ne reçoivent pas.
Question intéressante et votre inquiétude est fondée. C'est pour cela que le PNLP au niveau de Kinshasa a envoyé une équipe. Et à côté de cette équipe, il y a les partenaires Sanru et IMA qui ont déployé aussi une équipe importante afin de résoudre cette question-là.
Mais là où les bas blessent, c'est que les personnels ne sont pas motivés. Est-ce que côté aussi salaire, motivation des autres, est-ce que vous avez tenu compte de tout ça?
Merci beaucoup. L'intervention a tenu compte non seulement du personnel engagé dans cette activité-là, mais de toutes les étapes. C'est ce qui fait par exemple qu'au moment où nous parlons ici, tous ceux qui sont impliqués dans cette activité ont des cachets à toucher et cela à chaque niveau du déploiement de cette activité-là.
Professeur Michel Itabou Issa, je vous remercie.
Par contre, c'est nous qui remercions Radio Okapi.
Et c'est la fin de cette édition d'information sur Radio Okapi, mise en onde pour vous par Dieudonné Nyangasa Wanyangasa, supervisée et coordonnée par Alain Irung Mouchinge. Patience Ngalou Lambombo, c'est moi à la présentation. Merci de votre attention.